France Musique. Musicopolis. Saint-Saëns, 1877, Paris. Les jeunes musiciens se plaignent souvent, non sans raison, des difficultés de la carrière. Il n'est peut-être pas inutile de leur apprendre que leurs aînés n'ont pas toujours été sur des lits de roses et qu'ils ont dû trop souvent naviguer contre vents et marées, après avoir passé leurs plus belles années dans le port sans pouvoir en sortir, en butte aux pires malveillances, alors que l'intérêt de tous, des théâtres qui les repoussaient, du public qui les ignorait, eût été de les faire voguer à pleine voile. C'est Saint-Saëns qui écrit ces mots en 1913. Il parle en connaissance de cause, lui qui appartient à une génération de compositeurs français qui a dû lutter sur tous les fronts pour se faire accepter à l'opéra et pour faire admettre la musique instrumentale. Alors que dans les années 50 du 19e siècle, il n'y a à peu près pas de modèle de compositeur instrumental en France, hormis Berlioz, le jeune Saint-Saëns est très tôt attiré par l'orchestre. À l'âge de 15 ans, il a déjà écrit 4 symphonies. Des œuvres de prime jeunesse, certes, restées dans des cartons, mais qui montrent bien où l'entraîne déjà son imagination. L'une de ses premières œuvres publiées, l'année de ses 20 ans, sera une symphonie. Et les années suivantes, il donne encore à l'orchestre 2 autres symphonies, une suite, une ouverture, sans compter les essais inachevés. Il attend pourtant l'année de ses 36 ans, 1871, pour se lancer dans un nouveau genre qui n'a pas encore été fréquenté par les Français, le poème symphonique, sur le modèle de Liszt. En janvier 1877, est créé à Paris, au Concert Colonne, le 4e poème symphonique de Saint-Saëns. Après Le Rouet d'Omphale, Phaéton et la fameuse Danse macabre, il a pris pour sujet la jeunesse d'Hercule. Le critique de la Revue et Gazette musicale note que l'œuvre était le principal attrait du concert. Il remarque en particulier la bacchanale, brillamment instrumentée. Et cependant, il regrette, je cite, « de ne pouvoir placer ce morceau au même niveau que les ouvrages du même genre déjà produits par M. Saint-Saëns et auxquels on pouvait déjà reprocher l'exagération de leur tendance descriptive et imitative ». On peut imaginer que la déception n'est pas trop intense pour notre musicien. C'est qu'il attend avec impatience la création, quelques semaines plus tard, de son drame lyrique, Le timbre d'argent. C'est un véritable parcours du combattant que Saint-Saëns a dû suivre avant que soit enfin représenté le timbre d'argent le 23 février 1877. Un parcours pourtant courant pour les compositeurs français du milieu du 19e siècle et dont il fait le récit quelques années plus tard. Il raconte comment les musiciens de sa génération, Bizet, Delibes, Massenet et lui-même, étaient systématiquement rejetés par les directeurs des maisons d'opéra. Et lui, plus encore, pour deux raisons. D'abord, il était connu pour écrire de la musique instrumentale, donc il n'avait pas besoin de l'opéra. Et ensuite, parce qu'il n'avait pas obtenu le prix de Rome, consécration du bon étudiant compositeur, et sésame pour l'entrée à l'opéra. Saint-Saëns s'y était pourtant présenté deux fois, la première à 17 ans, il était trop jeune, la deuxième fois à 28, il était trop vieux. C'est après que Saint-Saëns a été recalé une deuxième fois au prix de Rome, en 1864, que le directeur du conservatoire demande à Carvalho, le directeur du théâtre lyrique, de bien vouloir fournir un livret d'opéra aux jeunes musiciens. En deux mois, plein d'enthousiasme, notre Saint-Saëns écrit « Le timbre d'argent », une partition dans laquelle il a mis tout son cœur, sachant que son avenir de compositeur d'opéra est en jeu. Son coup d'essai doit être un coup de maître. C'est alors que commencent les déconvenues. D'abord, Carvalho va laisser passer deux ans avant de daigner seulement écouter l'œuvre.
L'humble papillon de nuit aimait une étoile dont l'éclat scintillait.
Lorsque Carvalho, le directeur du théâtre lyrique, entend pour la première fois le timbre d'argent, à côté du piano joué par les doigts agiles de Saint-Saëns, il est tout à fait séduit et il veut monter l'œuvre illico presto. Mais tout de même, il faudra que le jeune compositeur fasse quelques retouches. D'abord, il faut un rôle pour Madame Carvalho, bien sûr. Or, il n'y en a pas pour le moment, puisque le rôle principal féminin est dévolu à une danseuse. Saint-Saëns s'exécute avec l'aide des librettistes Barbier et Carré. C'est l'occasion d'ajouter un air tout à fait charmant, d'ailleurs le seul air de toute la partition que la postérité retiendra. Après avoir exigé un rôle pour son épouse, Carvalho, le directeur du théâtre lyrique, n'en a pas fini de ses exigences. Un jour, il réclame qu'on fasse venir des animaux féroces sur la scène. Un autre, que Madame Carvalho aille chercher le timbre d'argent, un genre de sonnette magique, en nageant jusqu'au fond d'un aquarium. Deux autres années se passèrent dans ces niaiseries, écrit Saint-Saëns. Enfin, on renonça au concours de Madame Carvalho. Le rôle d'Hélène fut confié à la belle Mademoiselle Schroeder et les répétitions commencèrent. Elles furent interrompues par la faillite du théâtre lyrique. Voici 4 ans que Saint-Saëns essaye de donner son premier opéra, Le Timbre d'argent. Après la faillite du théâtre lyrique, c'est le directeur de l'opéra qui propose de monter l'œuvre. Mais, jusqu'ici, Le Timbre était un opéra comique, avec des dialogues parlés. À l'opéra, il faut que tout soit chanté. Saint-Saëns remet donc l'ouvrage sur le métier, il met tous les dialogues en musique. Ça ne suffit pas encore au directeur. Il veut transformer le rôle du ténor en travesti, pour faire chanter l'une de ses protégées. Notre musicien finit par comprendre que son timbre d'argent ne sera jamais monté à l'opéra. Là-dessus, changement de direction à l'opéra comique. Dulocle, le nouveau directeur, réclame l'œuvre à son tour. Mais bien sûr, il faut opérer quelques transformations. Rebelote, on touche bientôt au but, mais nouvelle déconvenue, on ne trouve pas de danseuse. Il faut remettre la création à plus tard. Enfin, tout paraît s'arranger. 6 ans après la composition, la première va être programmée. C'est invraisemblable, pense Saint-Saëns. Il arrivera quelques catastrophes pour se mettre en travers. En effet, il arriva la guerre. Après la guerre de 70, les aventures du timbre d'argent reprennent. D'abord à l'opéra comique, avant que le directeur ne se désintéresse de l'œuvre. Puis au théâtre lyrique, René de ses cendres. Cette fois-ci, après la chasse à la soprano, au ténor, à la danseuse, 1000 tracasseries, un orchestre médiocre, un nombre insuffisant de répétitions et une campagne de presse prévoyant déjà la chute de l'ouvrage, enfin, c'est la création de l'œuvre le 27 février 1877, après plus de 12 ans d'attente.
Demande à l'oiseau qui s'éveille, caressé par l'aube vermeille, en son nid amoureux s'il est tenu. Demande à la rose nouvelle qui s'épanouit fraîche et belle, si le printemps va.
Au soir du 27 février 1877, Le Timbre d'argent n'obtient pas un succès ébouriffant, mais selon Saint-Saëns lui-même, c'est tout de même un succès honorable, résultat d'une honorable exécution. Les critiques relèvent de nombreux numéros charmants dans la partition, malgré trouve-t-il un style qui manque d'homogénéité. Néanmoins, l'œuvre ne va pas rester au répertoire et il n'en existe aujourd'hui encore aucun enregistrement intégral, hormis celui qui a été réalisé par France Musique pendant la série de représentations à l'Opéra Comique au mois de juin 2017 et que vous retrouverez sur notre site. Le final du Timbre d'argent de Camille Saint-Saëns sous la direction de François-Xavier Roth, enregistré à l'Opéra Comique à Paris le 9 juin 2017. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Béatrice Trichet pour la réalisation et Bruno Mourlan pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.